La crise, là, ça rend les riches plus riches.
Ça compte pas.
Et les pauvres plus pauvres.
Pour des prunes.
C'est un pote qui me l'envoie de Nantes.
J'ai les yeux dans les oreilles.
La chronique de la culture en résistance.
Ce quelque chose, c'est quoi ? C'est une mutation, c'est quelque chose qui change. Et qui doit changer, certainement.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire. Abracadabrantes.
La semaine dernière, nous revenions en compagnie de certains de ces acteurs sur les 109 jours d'occupation du théâtre Gralin. Suite et fin aujourd'hui de cet épisode de Ça compte pas pour des prunes en deux volets. Nous retrouvons Martine, Willy, Fabrice et Céline pour entendre le bilan qu'ils font de ces 6 semaines de mobilisation et les perspectives qu'ils espèrent pour la suite de leur mouvement.
Une précision toutefois avant de leur laisser la parole, cette discussion a été enregistrée le 15 juillet dernier. Les mesures gouvernementales dont il y est question sont donc celles annoncées par le président Emmanuel Macron le lundi 12 juillet lors de son allocution télévisée du même jour. Bonne écoute.
Je pense qu'on a semé des graines. Hein, pour
le... Oui, c'est clair. Et puis, il y a eu un travail que les plus historiques ont défini comme étant un travail d'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on s'est auto-formé dans cette lutte aussi sur la pensée fondamentale de qu'est-ce que c'est l'assurance chômage, à quoi ça sert, d'où ça arrive, le salaire c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire répéter sans être déclaré et payé, est-ce qu'on est vraiment des professionnels quand on fait ça, ou est-ce que c'est le système qui nous contraint à le faire, qu'est-ce que c'est vendre un spectacle. Voilà, il y a eu, pendant les 109 jours, il y a eu beaucoup de temps pour se former entre nous. Et il y a eu deux temps, sur les agora, il y a eu deux temps, il y a eu avant le 19 mai et après le 19 mai. Avant le 19 mai, les gens, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas, bon, voilà, osaient venir à l'agora. Après le 19 mai, au moment de la réouverture des bars, des terrasses, etc., il y a eu comme une auto-censure des gens qui venaient jusque-là sur les marches et qui se sont auto-censurés, qui n'ont plus osé parler parce que, d'un seul coup, beaucoup plus de gens les entendaient sur les terrasses et ils avaient la sensation de ne pas être légitimes. C'est vraiment intéressant, ça, parce que c'est comme si... les terrasses de la place Gralin, qui est quand même en centre-ville, un espace bien bourgeois, hein, je dis pas de gros mots en disant ça, et c'est comme si les personnes qui venaient parler, qui étaient aux frontières de la société en marge, les gens sans travail, les gens sans logement, les gens sans amis, sans famille, un peu esselés, c'est comme si ces gens-là, ils s'étaient auto-censurés de parler devant les autres qui, eux, avaient une vie sociale et qui, eux, étaient des gens inclus dans la société d'aujourd'hui. Donc, ou la société où l'on est censé avoir réussi, quoi. Donc, c'était extrêmement impressionnant pour nous de voir que la réouverture des terrasses et des bars a fondamentalement changé la manière de prendre la parole au micro devant les marches de Gralin.
Finalement, le confinement, ça fait comme une page blanche en fait sur la place, quoi. Avec ce micro au milieu, tout à coup, c'était possible. On revoyait comme si on avait enlevé tout ce qui dérange d'habitude, et tout à coup, le noyau dur pouvait réapparaître et la parole se redonner à cet endroit-là.
Il y a des gens qui sont venus lire des lettres aussi qu'ils avaient rédigées pour nous. C'était extrêmement touchant.
Ouais.
Des gens qui ont à nouveau respiré grâce à l'occupation. En fait, l'occupation leur a permis d'avoir un point d'ancrage social, de retrouvailles avec d'autres personnes. Et on a bien senti, d'ailleurs ça nous a été dit, hein, que des personnes sont venues quotidiennement et on a été la boîte de sauvetage dans le désert relationnel que les confinements avaient créé. Hein. Mmh. Je pense à ce courrier qu'on a gardé, qui est archivé désormais, d'un monsieur qui nous a dit que littéralement on l'avait sauvé du suicide. On lui a permis de penser à nouveau que la vie valait la peine d'être vécue. Donc ça, c'est d'une force absolue. C'est un message immense. Open your windows, open your doors, open your minds to a freedom of thought. Deny the river, you say.
des créations qui vont avoir lieu, qui sont avec quelques personnes qui ont participé à la lutte de Gralin, qui vont avoir lieu par le biais d'Ouvrir l'Horizon. Il y a quelques personnes qui se sont rencontrées au sein de l'occupation et qui par la suite ont proposé des formes au dispositif Ouvrir l'Horizon. Et il y a quelques formes qui ont déjà été jouées, notamment Fabrice, voilà, peut nous en dire plus, puisqu'il vient de jouer... pour ouvrir l'horizon.
Une forme avec des gens que j'ai rencontrés essentiellement, enfin même exclusivement au théâtre, lors de l'occupation. Donc on a eu envie après de construire quelque chose ensemble.
Le dispositif Ouvrir l'horizon, c'est un dispositif qui s'est inventé l'année dernière au moment du premier confinement, ici sur les Pays de la Loire. Certains d'entre nous sont à l'initiative du dispositif. Et du coup, l'objectif, c'est de faire se rencontrer des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, des artistes, des techniciens, et de créer une forme artistique courte, de moins de 30 minutes, avec 5 jours de répétition et 5 représentations garanties par le dispositif. Et c'est un dispositif qui est soutenu par de l'argent public, puisqu'il est financé par le département, la région, les villes, la DRAC, voilà. Éclairé sur ce que c'est couvrir l'horizon.
Et c'est inspiré de la MAP, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément ce qu'il va y avoir, enfin, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans le panier de spectacles, donc on peut avoir peut-être de la danse, peut-être de la marionnette, peut-être du conte, du clown, du mime, que sais-je. Et donc du coup, ça crée une surprise. Et les gens qui reçoivent le spectacle ne choisissent pas la tête, ne choisissent pas ceux qu'ils vont recevoir. Et donc du coup,
il y a des découvertes.
Il y a des découvertes.
À tous les niveaux.
Vous êtes sur Jet FM et vous écoutez Ça compte pas pour des prunes, la chronique de la culture en résistance.
Moi, je veux bien revenir juste sur le. Pour bien préciser.
Pourquoi ?
Le Conseil d'État a retoqué le calcul de la réforme de l'assurance chômage. Dans l'intervention d'avant-hier, Macron a parlé de la réforme sans préciser de quel volet de la réforme il parlait. C'est-à-dire que la réforme de l'assurance chômage n'a pas été retoquée dans sa globalité par le Conseil d'État. Ça n'est que le mode de calcul. Donc, la question est de savoir si, quand Macron dit « ça va s'appliquer au 1er octobre », est-ce que c'est l'ancien mode de calcul qui n'a été que suspendu et qui va être réappliqué au 1er octobre, ou est-ce qu'il parle de tout le reste de la réforme qui n'a pas été suspendu par le Conseil d'État, hein, qu'on soit bien clair. Ceci dit, le Conseil d'État n'a pas terminé de rendre son travail, puisque ça n'a pas été jugé sur le fond. Donc, nous n'avons pas dit notre dernier mot, et en tout cas sur le plan syndical, il est évident que c'est une des questions qui va relancer la mobilisation à la rentrée. Parce que cette réforme de l'assurance chômage, elle est inacceptable pour l'ensemble des syndicats de salariés. Donc, on est sûr d'une chose, c'est qu'il va y avoir de nouvelles mobilisations contre cette réforme. Voilà, ça c'est pour le volet assurance chômage.
Après, on ne peut qu'être étonné, voire inquiété, qu'un président de la République veuille appliquer une mesure qui a été retoquée par le Conseil d'État, et une mesure dont, effectivement, qui a été partiellement retoquée par le Conseil d'État, mais le Conseil d'État a bien dit qu'il voulait à nouveau revenir sur cette réforme et continuer à travailler sur le fond pour voir si elle est conforme ou non. Et il a annoncé, le Conseil d'État, que ça allait se faire en octobre. Donc, du coup, ça veut dire que le président veut mettre en application une loi avant même que le Conseil d'État ait terminé de vraiment travailler sur cette question-là. C'est assez inquiétant.
Il fait pression.
C'est une pression. Mmh. Ouais.
Mais on répondra.
Oui.
Sur la suite, après, il y a d'autres sujets sur lesquels il va falloir qu'on se mobilise. C'est l'année blanche, qui n'est reconduite que jusqu'au 31 décembre. Donc ça, on va bien voir dans les...
Et sous quelles conditions, parce que...
Voilà, sous quelles conditions. On va bien voir dans les quelques mois qui viennent comment cette pseudo-reprise ne va pas avoir permis à l'ensemble des professionnels de faire suffisamment d'heures pour être protégés au 31 décembre par une reconduction de leurs droits. Donc il est tout à fait probable qu'il y aura à nouveau des mobilisations sur cette question-là aussi. Enfin, voilà, on ne voit pas comment. On ne sait pas comment on va relancer la mobilisation, mais on ne voit pas comment on pourrait y échapper.
faut savoir que les annonces de lundi vont de toute façon ralentir à nouveau la fameuse reprise du secteur culturel. Donc, parce que le pass sanitaire à mettre en place, c'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts, si il est possible de le mettre en place, ça j'en sais rien. Mais donc ça, ça remet à nouveau le secteur sur la brèche, quoi. Hein. Donc c'est vrai qu'on a eu pendant...
Plus que sur la brèche.
Oui, plus que sur la brèche.
Je vois pas vraiment comment on va mettre un flic derrière chaque entrée.
Ça pose plein de questions, ça c'est
sûr. Où chacun va devoir être flic de chacun, enfin je...
Qui était notre première revendication quand même,
oui.
Très vite, hein, sur l'occupation, tu demandais le pourquoi l'occupation. Et c'est vrai que cette revendication, elle est arrivée très 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 vite pour nous, parce que dans le secteur culturel, il n'y a pas que des intermittents. Et nous, en fait, notre métier n'est pas d'être intermittent, on a tous des métiers différents. Moi je suis comédien, toi tu es comédien clown, enfin voilà, il y a tout le monde, chacun a plein de... un métier qui est très très différent, donc c'est important de redire, on n'est pas intermittent, on a un métier, quoi. Mais intermittent, c'est un régime c'est l'assurance chômage, quoi. C'est pas dans le secteur culturel, il n'y a pas que des intermittents, il y a également beaucoup de gens qui sont au régime général et qui ne bénéficient pas de ce filet de sécurité de des annexes 8 et 10 de l'assurance chômage, et qui vont être directement, très très directement impactés par la réforme. Bon, ça c'est pour le côté secteur culturel, mais les gens qui viennent voir les spectacles et qui gagnent peu d'argent, qui sont eux-mêmes chômeurs, comment on peut imaginer que si on baisse leurs allocations, ils vont pouvoir confortablement continuer à venir au théâtre? Et ils vont sans doute le faire, mais ça veut dire qu'ils vont faire des efforts sur d'autres choses, ce qui est quand même un petit peu problématique pour nous d'un point de vue moral. Donc c'est vrai que c'était hyper important de très vite appuyer là-dessus, quoi.
Que tu as dit, Willy, ça concerne par exemple qu'on essaye de rendre visibles aussi les professions qui sont autour des métiers artistiques et techniques, les gens qui font le catering, les gens qui dans les festivals sont dans les prestations de services. Voilà, il y a tout un monde autour du secteur culturel dont on n'a pas conscience quand on vient voir un spectacle, en fait, mais il y a énormément de professions qui vont être impactées. C'est-à-dire, à l'Odéon, il y avait énormément de gens de la restauration et de l'hôtellerie, parce que tout ce qui est impacté, c'est aussi tout ce qui touche le tourisme, puisque la culture, c'est aussi quelque chose qui amène les gens à venir dans des endroits pour un festival, et puis d'un seul coup, ils découvrent une région, et donc ils voyagent à l'intérieur de cette région. Voilà, donc il y a tout un tas de gens, et ça nous a paru très évident que la réforme de l'assurance chômage, elle allait impacter tout notre écosystème. Et également, les spectateurs, comme tu l'as dit, et c'est la raison pour laquelle notre mouvement a été si populaire. C'est-à-dire que les gens ont bien compris qu'on ne se battait pas que pour nous, sectoriellement, nous, les petits artistes privilégiés, comme parfois on l'entend, ou les intermittents privilégiés, mais bien qu'on était là pour défendre une idée, une vision de société et une émancipation des citoyens. Et la réforme de l'assurance chômage, elle crée juste l'inverse, c'est-à-dire elle va paupériser, précariser et encore plus cliver les chômeurs entre eux.
C'est-à-dire que la précarisation, elle profite à certains. La précarisation, elle est... elle fait quand même le régal d'un certain nombre de personnes qui sont très très contents de trouver une réserve de travailleurs qui va venir pour travailler dès qu'on le claque des doigts. Et donc, du coup, on sait très bien où ça va, tout ça. C'est là où notre mouvement est politique, et est politique également, en fait. C'est parce qu'on a vraiment, cette conscience-là derrière, qui est là. C'est qu'on n'est pas dupes. On sait très bien que la précarisation de la société, c'est un mouvement d'ensemble qui est décidé, et c'est politique, c'est décidé politiquement.
Donc, le fond de notre énergie, pour avoir tenu tout ce temps-là, je pense que c'est profondément là-dedans. C'est dans ce rapport à l'humain qui est lié à nos métiers et qui est lié au fait qu'on ne rentre pas dans les métiers du spectacle juste par nombrilisme ou parce qu'on a un côté narcissique. On rentre bien dans ces métiers-là parce qu'on a envie de donner quelque chose que les résistants de 39-45 n'auraient pas renié, c'est-à-dire des jours heureux.
Samedi, n'oublions pas la manifestation à 11h contre l'extrême droite, place du Cirque, 11h. 14h, marche des fiertés, départ au miroir d'eau.
On s'est rendu compte que de pouvoir se réunir dans un monde de communication 2.0 ou 3.0, je ne sais plus où on en est, en tous les cas, on ne pouvait pas faire l'impasse de ça, en fait. On a eu beaucoup de difficultés, même si on a réussi à établir un réseau au niveau national. Le fait de ne pas pouvoir voyager tranquillement, comme on pouvait le faire sur d'autres mouvements, ça a beaucoup impacté quand même... On a beau eu faire des visios, c'est incomparable. Et on l'a vu dans l'occupation, la force de fédération que du coup ça peut avoir que d'habiter un lieu et de pouvoir lutter en chair et en os. Quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un questionnement qui est ouvert. Après, on a aussi ouvert des discussions avec les autres théâtres de l'agglomération, enfin les directeurs de ce qui n'avait jamais trop vraiment été fait. Et on a aussi l'idée d'avoir des itinérances dans ces théâtres. Enfin, il y a plusieurs pistes de réflexion là-dessus, sur comment se réunir. Mais oui, de toute façon, on va continuer de se réunir. Ça, c'est une évidence. Je pense que les liens qui ont été tissés sont trop forts pour les...
Et comme dirait Marie-Lou, citant Brecht, alors ceux qui se battent peuvent perdre, mais ceux et celles qui ne se battent pas ont déjà perdu. Donc allez-y, allons-y, battons-nous, continuons.
C'est ça. C'est pas fini, il faut continuer de se battre pour qu'on puisse évoluer dans nos professions.
Au public, de venir soutenir, parler, montrer.
Qu'on puisse remettre l'art vraiment, vraiment au cœur de nos quotidiens.
Plus il y aura de gens à se sentir concernés par la lutte en cours, plus peut-être on obtiendra quelque chose.
Avant de clore cet épisode, nous voulions particulièrement remercier Clara Frère, vidéaste et comédienne, qui nous a permis d'utiliser un extrait de sa série Portrait d'occupant. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver en intégralité ces 5 épisodes sur sa chaîne YouTube, Les Portraits de Clara. Merci également à Marcel du blog Les Intermittences du Cœur de l'association Calzadud pour le prêt de ses archives sonores.
On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même onde, pour le dernier épisode de la saison. Vous pouvez d'ici là écouter l'émission en podcast sur le site internet de JetFM.